Lumière.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes en 1947. Pendant les 12 mois de cette année, l'activité éditoriale est en pleine ébullition et le nombre d'œuvres capitales publiées est impressionnant. La peste pour Albert Camus, le musée imaginaire pour André Malraux, tandis que Jean-Paul Sartre écrit dans la revue des temps modernes les articles qui vont se retrouver dans son essai « Qu'est-ce que la littérature ?». En Allemagne, le groupe 47, si important pour le renouvellement de la littérature d'après-guerre, se constitue. Thomas Mann, de retour des États-Unis, fait paraître son docteur Faustus. Aux États-Unis, on voit arriver ce qui deviendra le livre culte de Malcolm Lowry, Au-dessus du volcan. En Italie, Primo Levi, rescapé d'Auschwitz, publie Si c'est un homme. Aux Pays-Bas, le journal d'Anne Frank connaît sa première édition. Et en Belgique, le prix Victor Rossel récompense le grand poète Maurice Carême pour ses contes pour Caprine.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
La situation après 1945 en Allemagne était celle qui suit une guerre. Mais on n'avait pas seulement détruit les maisons et les vies, on avait aussi détruit la langue. C'est l'idéologie qui l'avait détruite.
Voici ici Günter Grass qui revient sur les années d'après-guerre qui ont vu naître donc ce groupe 47 en Allemagne. C'est un document qui a été diffusé sur France Culture pour évoquer cette année 1947 côté éditorial. David Martens est avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous enseignez, David Martens, la littérature moderne à l'Université de Leuven et vous avez dirigé avec Bart van den Bosch l'ouvrage collectif 1947, Almanach littéraire, qui est paru aux impressions nouvelles. Alors on va dresser tout d'abord le décor général de cette année-là, 1947. La paix a beau être revenue, la situation politique et sociale reste précaire. Quels sont les événements marquants qui se produisent en 1947 ?
Alors il y a plusieurs événements marquants, c'est le moment en termes de décolonisation par exemple, de l'indépendance et de la partition de l'Inde et du Pakistan. On voit commencer à se dessiner l'indépendance de l'État d'Israël, l'apparition de l'État d'Israël, et je dirais de façon plus globale, au niveau de la géopolitique mondiale, c'est le début de ce qu'on a appelé la guerre froide. Le terme n'apparaît pas précisément à ce moment-là. Il est utilisé pour la première fois, en tout cas pour ce qui est attesté, par George Orwell dès 1945. Mais en 1947, Walter Lippmann, qui est un journaliste américain de renom, va lui donner son plein retentissement. Et c'est à ce moment-là que débute cette période qu'on va appeler la guerre froide, avec la cristallisation et la dissémination de cette formule. Et au fond, le fait que cette formule apparaisse, ou plutôt se répande à ce moment-là, devienne courante et d'usage courant, ça tient surtout au fait que la tension entre les États-Unis et les deux blocs, les États-Unis et l'Union soviétique, se renforce, devient beaucoup plus dure, puisque c'est à ce moment-là que commence le plan Marshall, donc une façon pour les États-Unis d'aider l'Europe à se reconstruire, mais de façon intéressée, en se protégeant de la menace communiste. Et c'est le début aussi de la formulation de part et d'autre de doctrines qui vont, au fond, donner les lignes de force de la guerre froide. D'un côté, la doctrine Truman, qui évidemment considère que le camp emmené par les États-Unis est celui de la véritable démocratie, et de l'autre côté, la doctrine formulée par Andrei Zhdanov, qui est l'idéologue au fond de l'Union soviétique à ce moment-là, et qui tient un discours, je dirais, à peu près similaire, mais à propos de l'Union soviétique, bien entendu. Et donc, par rapport à cela, je dirais que la littérature est amenée à devoir se positionner, parce que les positions sont fortement tranchée à l'échelle mondiale.
On verra comment elle va se positionner dans les différentes parties du monde. 1947, c'est aussi le début de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, mais on l'ignore encore. Les populations subissent toujours beaucoup de privations, sur le plan alimentaire notamment, privations aussi qui ont des conséquences en matière éditoriale, manque de papier. La guerre a eu des conséquences directes sur l'activité éditoriale. Quelles sont les grandes tendances ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, comme vous le rappeliez, la guerre a eu un impact économique, je dirais, à l'échelle globale de la société. Et pour les maisons d'édition, mais il y a une matière première qui, comme beaucoup d'autres, est amenée à manquer, c'est le papier qui a été rationné assez rapidement pendant la période du conflit et qui, bon, il faut savoir que l'Europe est en un champ de ruines, certains pays plus que d'autres, l'Allemagne en particulier, et donc je dirais que la priorité est à la reconstruction et le papier n'est pas, je dirais, la matière première la plus accessible, et donc le monde éditorial va être nécessairement impacté, comme on dit aujourd'hui, par ces conditions de diffusion, parce que tout simplement, pour imprimer, il faut du papier. Et à partir de là, les éditeurs vont trouver des moyens pour essayer d'accéder au papier, que ce soit via le marché noir. Il faut savoir que il y a un prolongement de la guerre de ce point de vue-là. Le papier n'est pas accordé à tout le monde dans la même quantité. Dans un des articles du volume, Jan Battens, mon collègue, rappelle un article consacré au roman photo qui fait son apparition en 1947, que il était assez difficile pour les éditeurs de magazines où paraissaient des romans photos, un genre qui était finalement assez décrié à cette époque, il était assez difficile pour eux de se procurer du papier, ce qui faisait qu'ils se débrouillaient pour en trouver, notamment au marché noir, et par conséquent, bah, c'était souvent un papier d'assez piètre qualité, et ce qu'on voit aussi, c'est que parallèlement, dans d'autres pays moins frappés par la guerre comme la Suisse, le papier est de nettement meilleure qualité, et c'est une des raisons qui font que le musée imaginaire de Malraux est un livre de luxe imprimé sur beau papier, tout simplement parce que la Suisse n'est pas dans le même état que d'autres pays parmi ses voisins, l'Allemagne ou l'Italie par exemple.
C'est le temps des règlements de compte aussi, il y a
absolument
ceux qui ont combattu hein, du bon côté, et puis il y a les résistants, c'est un nettoyage idéologique.
Alors c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Ce qu'on peut observer dans la façon dont les choses se passent et dont le traitement de la mémoire de guerre, on est dans une période de sortie de guerre, et donc le traitement de la mémoire de guerre est vraiment importante. Il n'y a pas nécessairement une volonté de se replonger de trop, dans certains cas, sur ce qui s'est passé au cours des dernières années, notamment en Allemagne. On observe vraiment une volonté dans la population, dans le monde médiatique, et avec évidemment certaines exceptions, une volonté de tourner la page. Mais évidemment, il y a aussi la volonté de traiter ce qui s'est passé et ce qu'on estime être des culpabilités. En France, le Comité national des écrivains, qui est un organisme qui s'est constitué pour fédérer un petit peu la résistance et fédérer les écrivains dans ce contexte-là, va être rapidement pris en main par les communistes, des gens comme Aragon, et va rapidement adopter des positions donc de plus que de censure, même de condamnation dans certains cas, interdiction de publication pour certains auteurs, pour certaines revues. Il faut se rappeler qu'une revue aussi importante que la Nouvelle Revue Française ne peut plus paraître jusqu'en 1953, moment où elle est republiée sous le titre un peu cornichon de Nouvelle Revue Française, qui va être rapidement abandonnée. Voilà, tout ça parce qu'elle avait été dirigée par Drieu La Rochelle pendant la période de l'occupation et que les Allemands en faisaient, je dirais, un organe important parce que pour eux, c'était le lieu par excellence de la littérature française à l'étranger. Et donc, un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de publications doivent s'arrêter. Et certains auteurs sont condamnés. En 1945, Brasillach est fusillé. Drieu La Rochelle se suicide. Et on est encore dans cette atmosphère, peut-être un peu moins chaude que directement après la guerre, mais tout de même, les choses sont encore, je dirais, relativement tendues. Et au sein même, finalement, faut pas, je dirais, caricaturer et simplifier, au sein même du camp du Comité national des écrivains, il y a des tensions. Il y a ceux qui veulent véritablement procéder à un nettoyage idéologique et à des condamnations fermes. Et puis il y a d'autres auteurs comme Camus, comme Jean Paulhan, qui cette année-là va quitter le CNE et adresser des lettres ouvertes à ses membres et à ses principaux dirigeants pour expliquer qu'au fond, les écrivains doivent se concentrer sur la littérature et non pas à se substituer à la justice civile. Et qu'il est préférable de la laisser faire son travail en toute indépendance.
Et on va voir avec vous, David Martens, que c'est précisément là souvent que le bât blesse, c'est-à-dire que les écrivains ne parviennent pas toujours à ne s'occuper que de littérature.
Bien sûr.
On reviendra sur l'influence grandissante, bien sûr, des États-Unis. On note aussi, en plus des difficultés alimentaires, que cette Europe de 1947 est frappée par une terrible vague de froid. Roger Martin Dugard, Raymond Aron en témoignent dans leur lettre. 1947, donc une année charnière pour le monde de la littérature.
La peste, pour la résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement, de la manière la plus banale et la plus simple, sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait avoir, en somme, deux styles. L'un qui aurait concerné justement les actions individuelles, et l'autre, au contraire, qui aurait concerné la tragédie collective, l'établissement du fléau. Il y a donc là, dans la composition du livre, un entrelacement extrêmement étroit des deux styles qui me paraissait convenir, aussi bien que je pouvais le faire, à l'intention du livre et à son sujet à proprement parler.
Un jour dans l'histoire,
sur la première.
Voilà, ici Camus à propos de son roman La Peste, donc, qui sort en 1947, donc année capitale rien que pour ça, pour la littérature. Alors, David Martens, au sortir de la guerre, donc on se projette dans un futur qui n'est pas très lointain. 1947, le philosophe américain conservateur James Burnham publie un livre qui s'intitule La lutte pour le monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa vision est pour le moins pessimiste.
Oui, alors c'est un auteur qui, comme beaucoup d'autres, il faut savoir que la littérature relative à la guerre froide est notamment hantée par le spectre de la bombe atomique. Les deux premières, je dirais, jusqu'à présent, ce sont les deux seules, je pense, utilisées effectivement dans le cadre d'un conflit. Donc on a été largué sur le Japon, et le spectre atomique hante véritablement, je dirais, la littérature et la culture de façon générale à cette date, à partir donc de 45 et jusqu'en 47. Et donc cet auteur américain, lui, je dirais que son livre fait partie de toute une campagne menée aux États-Unis dans la crainte de voir se développer un conflit armé, et donc un conflit, je dirais, presque nécessairement atomique avec l'Union soviétique, qui était un allié jusqu'en 45, et puis un allié dont on se méfiait évidemment d'un point de vue idéologique vu d'outre-Atlantique. Et donc ce livre-là est un témoignage, mais parmi d'autres, il y en a vraiment beaucoup à cette époque-là, par rapport à cette crainte majeure de voir un conflit atomique se déclencher entre les deux blocs idéologiques. Alors, je dirais que c'est difficile de savoir aujourd'hui avec le recul si c'était les craintes exprimées par cet auteur qui en appelle véritablement pratiquement au déclenchement d'une guerre préventive, comme on dit depuis, avec l'Union soviétique, de peur qu'il n'acquière rapidement, ce qui arrivera, la bombe atomique, et que, je dirais, l'affrontement se fasse sur une forme de pied d'égalité.
George Orwell, qui entreprend à ce moment-là son fameux texte 1984, sera plus nuancé, lui, et très critique par rapport à Burnham.
Oui, comme pas mal d'autres intellectuels, je dirais, qui ont plus de distance par rapport à cette espèce de proto-maccartisme qu'on voit se développer aux États-Unis durant cette période. Lui va plutôt considérer que, au fond, les choses pourraient se tasser, que l'opposition pourrait se entre les deux blocs idéologiques pourrait s'assouplir d'elle-même, ou que, une fois que l'Union soviétique aura acquis l'arme nucléaire, l'autre option qu'il envisage, et qui finalement sera celle qui s'avérera la plus juste, je pense, l'autre option, c'est de considérer qu'au fond, une fois que les deux blocs auront l'arme atomique, ils auront suffisamment peur et suffisamment d'intelligence que pour ne pas l'utiliser, et ce seront des armes finalement de dissuasion davantage que de, je ne sais pas, de coercition militaire.
Une année 1947 donc attentive aux conséquences de ce qu'on n'appelle pas encore la guerre froide. L'Italie aussi est très attentive à la question, à travers notamment Antonio Gramsci, qui est l'un des fondateurs du Parti communiste italien. En 1921, il est arrêté par le régime fasciste. En 1926, il reste en prison pendant 20 ans. Il meurt en 1937. Quel est son apport à la littérature lorsqu'on la regarde 10 ans plus tard, en 1947?
Alors, le fait est que ses écrits, tout ce qu'il a écrit en prison et qui est très abondant, ne sont pas encore parus. Et ce qui se passe en 1947 au niveau de l'Italie, qui compte le parti communiste le plus important quantitativement en nombre d'adhérents en Europe, ce qui se passe, c'est qu'il y a une volonté d'utiliser Gramsci pour, introduire une vision un peu divergente et différente de celle qui se développe dans le monde communiste en général. Il faut savoir que l'Union soviétique a un grand prestige en tant que pays qui a remporté la guerre. Et donc, l'image qu'on a aujourd'hui de Staline n'est pas tout à fait la même que celle qu'on avait à l'époque. Au fond, les yeux vont se dessiller à partir de 1953 et de milieu des années 50, quand les Russes interviendront, notamment en Hongrie. À partir de là, un certain nombre d'intellectuels communistes qui, suivaient la ligne stalinienne sans l'ombre d'une hésitation, vont faire machine arrière et commencer à émettre des doutes, voire quitter le parti. Mais donc, à cette époque, Gramsci n'est pas l'auteur que l'on connaît aujourd'hui. Il commence à le devenir via la publication de ses écrits de prison en Italie. Et la publication de ces écrits de prison, elle s'inscrit dans une stratégie qui est celle du Parti communiste italien. Il s'agit de faire entrer dans le monde culturel, dans le paysage intellectuel et idéologique italien, politique également, une figure qui va devenir importante, mais qui ne l'est pas encore. Et je dirais que l'opération menée par certains dirigeants du Parti communiste italien est assez maligne, puisque plutôt que de